Oui, j'aime ça, tu sais, la petite phrase juste avant. Oui, l'identification, merci, elle n'a pas la langue dans sa poche. Puis tout à l'heure, on a quand même parlé de
Ouais.
bisounes, de zigounettes et de pénis parce qu'on parlait de Caitlyn Jenner qui a eu la grande opération. Et ben, c'est ça, je me faisais la réflexion. Je pense que c'est la première fois de toute ma carrière où je travaille pour un médium parlé où je peux utiliser ces mots-là.
Ah, bienvenue à la
Ah,
Radio de
c'est
Québec, ma
tellement
chère Sophie.
libérateur. Ça se dit, en compte, ça faisait 30 ans que j'avais envie de dire ces mots-là. En
Fait que là,
ondes.
t'es comme la Reine des Neiges. Délivrée,
Et
libérée.
libérée! Oui, c'est ça. Mais ça fait partie de la vie, puis il faut en parler.
Appeler un chat un chat, là.
Ah, oui, absolument. Alors, ce qui fait partie aussi de la vie, c'est l'art de vivre. Ah, bien manger. Et en fin de semaine, on a parlé hier avec la responsable des communications, Mme Mongeau, qui était responsable des communications du Salon du Livre de Québec, qui a été un grand succès, qui a encore une fois battu un record. Et on parlait des différents stands qui avaient été les plus populaires. Et parmi ceux qui ont été très populaires, il y a celui d'Arnaud Marchand et de Jean-Luc Boulay, qui étaient là pour parler de ce magnifique livre de cuisine, Le garde-manger boréal, 80 recettes pour le découvrir et le cuisiner. Et Arnaud Marchand est avec nous ce matin. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors, ça a été un bon succès, le Salon du livre, ça s'est bien passé?
Oui, vraiment. Vraiment très impressionné. Des fois, avec l'avancée de toutes les technologies, les tablettes et tout ça, j'avais hâte de voir un petit peu comment les lecteurs répondaient justement à un salon du livre, le papier. Puis vraiment très surpris, très agréablement surpris, c'était bondé les 3 jours où on y était avec Jean-Luc, de partout, que ce soit aussi de tous les âges. Donc vraiment une super belle activité.
Donc de tous les âges, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à la bouffe. Ils ne font pas juste cuire des pâtes puis mettre de la sauce tomate dessus. Là, ils s'intéressent à la cuisine, ou en tout cas, il s'arrête aux ingrédients particuliers que vous avez dans le livre.
Vraiment. Il y a de plus en plus de jeunes qui disent « Ah, ben, j'ai commencé de regarder les chefs. » Puis, il y a vraiment le vouloir apprendre. Et justement, avec cette cuisine un petit peu plus locale, cette cuisine boréale, avec parfois même des jeunes « Ah oui, j'ai déjà travaillé le poivre des dunes. » Donc, vraiment surpris avec Jean-Luc, des fois, de voir des gens qui arrivaient « Ah, ben, c'est le fun, je vais savoir quoi faire avec. » Fait que c'est vraiment impressionnant, là, vraiment. Puis ça va vraiment dans tous les âges. Il y avait une famille qui est venue, puis « Ah, ben, j'ai toutes ces épices-là à la maison.
Hein? »
Puis pour moi, c'était comme « Ah, avec Jean-Luc, on s'est regardé. » Ah, le livre arrive à point nommé. Il y a des gens qui commencent à les avoir dans leur maison. Et puis aussi, le côté « Ah, ben moi, je connais un cueilleur qui m'en a ramené, puis je savais pas comment l'utiliser. » Fait que c'est vraiment... on était très contents. Ces 3 jours ont permis vraiment d'avoir un lien direct avec les gens et de voir un petit peu comment aussi insérer cette façon de cuisiner, au final, avec les gens chez eux. Donc, très intéressant.
C'est ça, parce qu'on pourrait avoir, le sentiment de dire « Oh mon Dieu, c'est trop compliqué, c'est des ingrédients, je connais même pas le nom, puis je sais pas où trouver ça, puis tout ça. » Et en fait, quand on feuillette le livre, on se rend compte que c'est aussi, tu sais, je veux dire, c'est aussi simple que de préparer d'autres recettes, sauf qu'au contraire, c'est plus facile d'une certaine façon parce que c'est des ingrédients locaux. Donc, c'est des ingrédients qu'on peut quand même relativement facilement trouver. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé du poivre des dunes.
Oui.
Alors, c'est quoi ce poivre et où peut-on le trouver?
Donc, le poivre des dunes, en fait, c'est le petit fruit de l'aulne tardif. Donc, c'est comme un buisson.
Okay.
Et puis, il est récolté généralement l'hiver ou début printemps. Et après, il est séché. Et ensuite, on l'utilise comme un poivre. Moi, je l'adore avec le gibier. Sur une pièce de gibier, là, ça
donne.
Mais
on le met dans un moulin, puis on moule?
Exactement,
ah, oui.
Comme un grain de poivre, sauf que ça ressemble à une mini cocotte, en fait.
D'accord.
Et puis, on n'a plus qu'à le moudre ensuite avec soit un moulin à épices, on pourrait même le mettre dans un moulin à poivre. Puis c'est vraiment intéressant, vraiment, comme saveur avec le gibier. Donc, c'est un parfum qui est exceptionnel. Ça continue comme la saveur du gibier. Il y a aussi avec l'érable. Poivre des dunes, érable, là, c'est comme magique. Là. Il y a quelque chose qui se passe.
Alors, quelle utilisation on pourrait faire? Parce que l'érable, on pense plus à des desserts.
Oui.
Ou alors, vous utiliseriez le sirop d'érable et le poivre des dunes sur quoi? Sur du gibier aussi?
Ben, par exemple, moi, j'aime pas trop le sucré salé, sauf par exemple une laque. Une laque pour le magret de canard, on pourrait démarrer avec sirop d'érable, déglacer avec un jus de volaille, puis poivre des dunes infusé dedans. Ça pourrait très, très bien marcher. On vient laquer un petit peu notre magret de canard à la fin de la cuisson avec ça. là.
D'accord. J'ai l'air d'un Saint-Bernard à vous écouter, là. Tellement j'ai faim. Dégouline. Cool. Ah,
ça est loin ta banane, hein, ton petit yogourt là, que tu prends à 7 heures le matin.
D'habitude, vers 10 heures, c'est mon heure pour manger.
Ben oui, je te vois tout le temps en train de manger ton petit yogourt. Alors si, en sortant de l'émission à midi sur le Bourgneuf, si je veux me procurer du poivre des dunes, je vais où et je fais quoi à Québec pour en
Alors,
trouver?
Alors, il y a certaines épiceries fines. En fait, il y a des épiceries qui les ont, par exemple, avec la société d'Origina, qui, chez Avril, par exemple, à côté de Le Bourgneuf, il y a les épices d'Origina. Nous, au bistrot, on a mis en place, pas au bistrot, mais au comptoir, on a ouvert un petit comptoir boréal qui est une pâtisserie prête à manger, toujours sur l'aspect local. Et on a mis comme une épicerie, les épices sont disponibles en version 10 grammes, 5 grammes.
Ah,
donc, on peut
bien
acheter pour faire deux recettes. Puis, si on ne l'utilise
ça,
plus, au moins, on l'aura essayé.
Mais ça, c'est super. Parce que moi, ce que je déteste, c'est quand tu lis une recette, puis là, ça te dit, ça te prend tel ingrédient. Mettons, ça te prend du sriracha.
Mais... Oui.
Bon, c'est pas un bon exemple, mais du sriracha, j'en mets sur mes frites. Mais bon, mettons que ça te prend du sriracha, il faut que tu achètes le contenant complet, puis en fait, tu en utilises une cuillère à thé. Ben là, tu restes pogné avec ton sriracha dans le frigo, puis tu l'utilises pas pour les 6 prochains mois. Puis après, quand tu veux le réutiliser, ben il est plus bon. Fait que tu le prends, tu le jettes à la poubelle, c'est du gaspillage. Donc là, vous avez des petites portions,
des
si
petites
on veut
portions,
utiliser.
Que ce soit le sirop de bouleau, sirop de merisier. On a vu avec nos producteurs et nos fournisseurs, que ce soit des cueilleurs aussi, pour avoir des formules en plus petite quantité. Comme ça, tout ce qui se retrouve dans le livre se retrouve au comptoir. Et le but, c'est d'avoir plusieurs succursales où on va pouvoir justement diffuser un petit peu ces épices-là. Puis tous les petits produits, on parle du vinaigre de Gadel, on utilise le vinaigre de cassis de l'île d'Orléans. J'ai des versions en 50...
Les Mona?
En 50, non.
De chez Mona et Fille?
Non, c'est chez la vinaigrerie du Capitaine.
Ah,
ils
bon.
Font du vinaigre biologique.
Bon, ben quand on va aller faire notre tournée à l'île d'Orléans, ouais. Catherine et moi, on met ça sur notre liste.
C'est magnifique. C'est un caveau qui est exceptionnel, des vinaigres qui ont plus de 7 ans parfois.
Vinaigrerie du
Capitaine.
Du Capitaine.
C'est
bon,
François Vincent. Puis ils travaillent en collaboration avec Cassis Monéfi pour rapport à la production de cassis. Parfois, ils sont très proches. Puis, parce que chez Cassis Monéfi, c'est plus des alcools, crème de cassis.
Absolument.
Ou des choses comme ça. C'est moins l'aspect
vinaigre. Et ils gagnent des prix. Et ils gagnent des prix
et
à l'international.
Oui, oui.
Ils font des produits fabuleux. Arnaud, je vous écoute parler. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que si on va en Italie, dans un petit village en Italie, et les gens vont nous parler avec des étoiles dans les yeux de leur huile d'olive qui est faite dans au petit moulin, là, qui est les grains, les olives sont moulues vraiment au petit moulin juste à côté, puis il y a le petit producteur et tout ça. On va dans une autre région en Italie, les gens vont nous parler de, je sais pas, on va à Capri, ils vont nous parler des citrons de Capri, c'est la spécialité, les citrons sont absolument énormes. Puis on arrive au Québec et on n'avait pas jusqu'à tout récemment cette fierté d'utiliser des produits locaux, d'utiliser des produits qui ne se retrouvent qu'ici, qui ne se retrouvent pas ailleurs. On ne savait pas comment les apprendre. On ne connaissait pas même le nom
exact.
De ces produits-là.
On les connaissait pas.
Et moi, ce que j'aime avec votre restaurant que vous avez fait chez Boréal, avec ce livre-là, avec les ingrédients, vous êtes en train de nous redonner une fierté puis de nous faire redécouvrir des choses qui sont à portée de main. Et ça, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important de faire ça, de nous redonner cette fierté-là.
Ben, c'est sûr qu'avec avec Jean-Luc, quand on a décidé d'ouvrir le bistrot, je me suis promené sur la rue Saint-Jean, puis on voulait faire quelque chose de différent. Puis je me suis promené sur la rue Saint-Jean, qui s'est renouvelée depuis, mais c'était pizza, pâte, hamburger.
Ouais, ça c'était avant l'ouverture de Paillard,
avant tout ça.
Ouais.
Fait que là, je regardais, je dis, mais quelqu'un qui... La rue Saint-Jean est très touristique. Quelqu'un qui se promenait. Moi, je vais en Italie, je veux manger une pizza. Je veux aller manger des pâtes. Mais si je me promets à Québec sur la rue Saint-Jean, c'est quoi que je vais goûter qui est... Ben, la poutine, mais c'est
mais
tout.
Mais encore. Ouais.
C'est ça. Fait que il y avait un peu cet aspect-là. On a dit, comment on pourrait réinventer cette chose-là puis dire, vous rentrez dans ce restaurant puis vous allez manger du local, des choses que vous n'allez pas pouvoir manger ailleurs. Fait que c'était vraiment le but et ne pas être un restaurant touristique. On voulait éduquer les gens, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, pour faire en sorte de faire connaître toute cette richesse et puis d'avancer là-dedans année après année. Parce qu'au début, on est parti avec des produits beaucoup plus limités. On ne connaissait pas autant. Et depuis 5 ans, on n'arrête jamais. Et puis chaque année, on a des nouveaux produits.
Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai utilisé la mauvaise expression. Parce que quand je vous parlais du poivre des dunes, je disais, bon, ça remplace le poivre. Mais en fait, ce n'est pas remplacé par quelque chose. C'est une autre saveur. Mm. C'est comme bon, du sirop de bouleau ou je veux dire, c'est juste, c'est ça. C'est, ou du vinaigre de cassis, ben c'est ça. C'est pas en remplacement d'autre chose, c'est juste une saveur différente.
En fait, c'est, les gens me disent, ça goûte quoi l'argousier? Ben, ça goûte l'argousier. Il y a vraiment, il y a beaucoup de choses. Ouais. Le poivre des dunes, on peut mettre des similaires. Dans le livre, on a mis un peu des similaires. Si vous n'avez pas de poivre des dunes, remplacez par du poivre. Ce n'est pas ça le but, mais on voulait que les gens quand même s'approprient parce que les recettes sont, même sans épices boréales, sont très savoureuses et puis sont aussi faciles à faire. Et donc, il y avait autour de ça vraiment d'amener ce livre-là à faire découvrir ces épices-là et puis de les mettre en avant, mais sans trop faire peur.
Ouais.
Et la particularité, si on suit les recettes à la lettre, c'est que les saveurs qui vont ressortir, c'est dire « j'avais jamais goûté ça,
ouais.
Je connaissais pas ça ». Donc c'est vraiment, c'est un peu le jeu qu'il y a à faire avec ce livre. Puis je veux, en fait, le but, avec Jean-Luc, on est des grands passionnés, on adore notre métier. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens s'amusent à la maison. Mmh. C'est pas grave s'il y a pas tout, mais il faut s'amuser, il faut essayer. On a travaillé avec Eric qui me suit depuis le début, qui est mon bras droit en fait au bistrot, et on a pesé chaque recette. Elles sont très 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 précises, toutes les cuillères pour avoir la juste acidité, pour avoir la juste technique, la juste cuisson. Tout a été vraiment fait dans les règles de l'art. Et puis ça, c'est vraiment une belle fierté pour nous.
Oui, et en plus, je dois vous le dire, là, c'est pas pour vous flatter, mais les photos sont vraiment magnifiques.
Ah oui.
Et puis, c'est vrai, hein, parce que des fois, tu as des livres de recettes, quoique, bon, maintenant, en 2007, de moins en moins, mais des fois, tu as des livres de recettes, les photos sont poches, puis ça te donne pas envie.
On mange avec les yeux beaucoup, hein?
Ben oui.
Juste ça, ça donne le goût des cuisiner parfois.
Ben, non seulement, je dirais même plus, c'est-à-dire que les photos de plats sont magnifiques, mais les photos des différentes régions du Québec et des différents producteurs, parce que, vous parliez de l'argousier tout à l'heure, comme par hasard, j'ai ouvert le livre, je suis tombée sur la page de l'argousier du Mont-Féréol.
Oui.
Et je trouve ça extraordinaire parce que ça veut dire aussi qu'après avoir feuilleté votre livre, avoir essayé des recettes, les gens vont peut-être avoir envie justement d'aller à la rencontre de ces producteurs-là, puis de redécouvrir, encore une fois, je reviens toujours à ça, mais de redécouvrir notre territoire dont on devrait être fier. Mm-hmm. Ça devrait être une des choses dont on en est le plus fier au Québec. Tu sais, on a des ressources naturelles, mais ça fait partie de nos ressources naturelles aussi, cette richesse-là de gibier, puis de plantes, d'épices, d'herbes qui sont aussi importantes que le poivre peuvent l'être, la vanille à Madagascar. Ils sont super fiers de leur vanille. Bien, nous, soyons fiers de notre argousier. Bon.
Mm-hmm. Non, c'est ça. Puis,
team argousier.
Oui. Ben, là, il y a, par exemple, Léandre, qu'on a voulu mettre aussi de l'avant dans le livre. Tous les producteurs qu'on a mis, François et Vincent de la vinaigrerie qu'on a parlé, Cassis, mon et fils sont là, les filles à Catherine et Anne avec leur père.
Oui, j'ai vu leur photo.
Donc, il y a vraiment... c'est pas de faux semblants. On a voulu représenter ce qu'on est vraiment avec Jean-Luc, représenter aussi les producteurs qui travaillent fort et qui nous facilitent le travail de cuisinier. Et puis, c'est sûr qu'à travers les photos, donc André-Olivier Lira qui a fait les photos, incroyable. Autant sur la mise, des fois j'ai des visions d'un plat, je le mets en place, puis André-Olivier me disait non, ça marche pas, regarde Arnaud, c'est trop chef, là, il faut le simplifier. Parfait.
Ah.
Fait que le challenge de travailler en collaboration, tous ensemble, on a fait, sur les photos, il y a eu un gros travail de fait. Puis, donc, c'était une belle collaboration. Là, on était très fiers de ça. Puis, cette mise en valeur aussi des producteurs, on a dédié notre livre à un producteur qui s'est suicidé il n'y a pas très longtemps. Et puis, c'était super important que Rudy soit cité dans le livre. On le voit à la page au départ.
Ah oui. Donc, à notre ami Rudy Ducreux, un artisan généreux d'un grand talent, tu nous manques. Parlez-nous un peu de M. Ducreux. Que faisait-il? Il était producteur de quoi?
Rudy, en fait, il produisait des fromages. C'était l'un des premiers à avoir challengé un petit peu la MAPAC avec des fromages au lait cru.
Oui.
Et puis, donc, il a traversé beaucoup de problèmes en ayant dû jeter certaines tournées de fromages. Puis, donc, il y a eu plusieurs histoires. Puis en plus, il élevait, par exemple, des fois, il nous a fait des élevages de veaux élevés sous la mer. Donc, uniquement nourris avec le lait de la mer.
Ce qui devrait être la façon d'élever des veaux normalement.
Exactement. Oui. Et il y avait un énorme travail de se passionner. Et puis, malheureusement, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Puis, c'était vraiment pour nous très important de dédier ce livre à Rudy parce que son travail était exemplaire, parce qu'il nous fournissait. Puis, il travaillait avec beaucoup de restaurateurs de la ville de Québec. Donc, ce lien-là, il faut vraiment le comprendre que ce livre-là n'existerait pas sans cueilleurs, sans producteurs, et puis sans des gens passionnés au final, comme nous. Mais nous, on est juste la signature finale. C'est on aiguille, comme c'est, on utilise tous ces produits, puis on les met finalement sur l'assiette pour les donner aux gens. Mm-hmm. Mais il y a vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de monde derrière. Juste ce livre-là, c'est beaucoup, beaucoup de travail.
Oui, mais je suis contente que vous parliez de M. Ducreux et que vous parliez aussi des producteurs, parce qu'on sait qu'au Québec, ben, vous avez parlé de la MAPAC. Là. On sait que ce n'est pas facile quand on se dédie à la production d'un produit en particulier. Le nombre de bâtons dans les roues que tu vas avoir, de bureaucrates qui vont te venir te dire comment faire ta job, les règlements, puis si, puis c'est l'hygiène, puis c'est le machin, puis comment ça, t'as pas un petit chapeau sur la tête, puis comment ça se fait que tu fais ci, puis comment ça se fait que tu fais ça. Et c'est il faut vraiment des gens, vous disiez tout à l'heure, des passionnés. Je dirais, il faut être un peu fou pour continuer à être des producteurs dans certains cas au Québec, parce que la bureaucratie est tellement forte et il y a tellement de bâtons dans les roues qu'il faut vraiment s'accrocher fort pour continuer dans ce domaine-là.
Ah, c'est sûr qu'au niveau tout ce qui est papier, puis l'hygiène, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment très intense. Parfois, on veut essayer d'aseptiser complètement les cuisines, puis c'est pas ça qui va empêcher, c'est parfois des bactéries de rentrer, puis comme dans un hôpital, à un moment donné, on peut pas non plus, on essaie de travailler le plus sain possible dans des cuisines. Moi j'ai une cuisine super équipée, mais la demande est toujours plus forte, plus haute, puis ça demande des investissements très importants de plus en plus. Puis c'est sûr que les producteurs vivent avec cela. Puis parfois, pour s'en sortir, Rudy, ces journées, j'aurais pas voulu les faire. Il faisait la traite, il faisait ses propres fromages. C'est un travail hallucinant là, qu'il avait à faire. Là. C'était quelqu'un qui était très, 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 très travaillant. Puis Jean-Luc me l'avait présenté dès l'ouverture du bistrot. Puis j'avais eu un coup de cœur pour Rudy. Là. C'était incroyable. Puis de toute façon, pour tous les chefs à Québec qui ont travaillé avec lui, c'était vraiment un exemple. Puis c'est sûr que des fois, ça m'attriste un peu de voir justement tous ces producteurs-là arrêter. Ce temps-ci, je voyais passer des fermes qui abandonnaient.
Ah,
c'est trop
oui.
de travail. Mais même des fermes maraîchères, mais aussi de producteurs, que ce soit de chevreaux. Je connais des gens qui ont arrêté le chevreau. Fait qu'il y a vraiment, on sent un petit peu, des fois, un désarroi, puis de dire, bon, on arrête là. C'est beaucoup d'efforts pour au retour, pas grand-chose. Donc nous, on essaye de les encourager au mieux. Je me rappelle quand on a ouvert le bistrot, il y avait un producteur d'oies qui m'avait approché, puis il arrêtait. Il était sur le point d'arrêter. Il me dit,
ah,
non, j'élève des oies, mais je ne suis pas sûr de les vendre. Ça reste dans mon congélateur. Et tout. Ben, je lui dis, si tu veux, on continue ensemble. Puis moi, j'ai un volume intéressant. Je te prends 200 oies par année.
Wow.
Puis je les ai pris à chaque année. Puis là, il a arrêté l'année dernière, les larmes aux yeux. Il m'a dit, Arnaud, merci d'avoir cru au travail. Je vais transférer ma production à l'île d'Orléans. Fait que je travaille maintenant à l'île d'Orléans pour mes oies. Mais c'est vraiment aussi d'essayer de monter justement avec ces producteurs-là une espèce de pas de contrat, mais un lien pour dire, regarde, je vais t'acheter ça.
Ouais.
Comme ça, ça va t'assurer tant de ventes. Puis je pense que c'est dans ce... J'ai la possibilité d'avoir du volume, fait que c'est là-dedans que ça devient intéressant pour les producteurs.
Ça devient une confrérie, dans le fond.
Vraiment.
C'est quoi le produit québécois, local, que les Québécois ne connaissent pas assez et devraient mieux connaître et mieux utiliser?
Le produit, il y en a tellement, il y a beaucoup de coups de cœur, mais je dirais celui qui surprend le plus, parce qu'on connaît le produit à la base, mais on ne sait pas qu'on est capable d'en faire de l'huile, c'est l'huile de pépin de canneberge.
L'huile de pépin
de canneberge.
De canneberge. Bon, déjà, la canneberge, pas très gros, donc le pépin ne doit pas être très gros.
Exactement. Fait que ça, les gens, c'est... Ah oui, ils font de l'huile avec les pépins. Fait que ça, il y a une belle surprise là-dessus.
Ah, OK. Parce qu'on connaît l'huile de pépin de raisin, qui est excellente pour la santé.
Oui.
Et je pense que c'est Jean-Luc qui vous appelle en disant « Arnaud, viens-t'en. »
C'est pas ce produit-là que je voulais que tu...
Alors, de l'huile de pépin de canneberge.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on fait avec? On l'utilise pour remplacer, mais on peut l'utiliser pour faire une salade, par exemple?
L'huile de pépin de canneberge, moi, je l'aime juste pour la garder nature, pas en cuisson, forcément.
Ah,
vraiment la garder nature, mais juste sur un trait, sur un saumon. On a fait, dans le livre, un tartare de truite avec tout autour du canneberge. Donc, canneberge séchée non sucrée, huile de pépins de canneberge et vinaigre de canneberge. Et ça, ça a été un gros coup de cœur. L'avait pensé, on l'a réalisé, puis avec Jean-Luc puis Eric, quand on a goûté ça, ça c'est magique. Fait que ça, c'est une super belle recette à faire dans le livre Le Tartare. Là.
Quand vous créez une recette, est-ce que c'est comme un compositeur de musique, c'est-à-dire que vous l'avez dans votre tête? Puis après, vous l'exécutez, puis c'est comme quand un chef d'orchestre prend les instruments, puis là, l'œuvre est créée. Mais je veux dire, d'abord, ça se passe dans votre tête ou c'est au fur et à mesure, en goûtant, que vous la créez?
C'est très drôle, c'est que des fois, ma femme ou mes employés essaient de me parler, puis je suis comme dans une bulle. J'arrive à me concentrer sur une chose à la fois. Puis quand je suis en création de recette, je pars sur quelque chose. Puis des fois, ils essaient de me glisser des informations, mais là, je suis vraiment en période « Ah, on pourrait faire ça. »
Parler ma poche en train de faire un saumon au canneberge.
C'est ça. Fait que c'est vraiment de... moi, j'aime ça quand c'est spontané. Ouais. Puis je me le marque vite. Fait que là, ça peut être « Ah, on pourrait faire ça. » Ah, je le marque. Puis à un moment donné, on s'en resserre pour l'essayer.
On dirait une scène de Ratatouille.
Ben oui,
film Ratatouille quand tu dis ça.
Ah, c'est tellement le plus beau film du monde.
Ah ben oui, mais c'est exactement ça. Oh, on pourrait faire ça. Ah, oh, puis là, il parle puis il oublie pas. Là, s'il y a des gens qui lui parlent, oublie ça, il n'entend rien. Là.
Donc c'est vraiment... Mais c'est ce que j'aime de mon métier, c'est vraiment d'arriver à créer... au bistrot, moi, je participe. C'est vraiment la carte de chaque saison qui est le cœur de ma cuisine. Et ensuite, je pousse aussi, que ce soit mes chefs, puis même tous mes cuisiniers. On a des plats à l'ardoise. Fait que là, c'est leur création qui passe à travers mes saveurs. Mmh. Qu'est-ce que j'aime, les acidités, tout ça. Okay. Donc, ils s'amusent avec ça. Je veux pas juste que la création m'appartienne. Si vous allez à l'ardoise, souvent, c'est mes chefs qui s'en sont occupés le soir. Puis ils connaissent mon palais, ils s'aiment ce que j'aime pas, puis ils savent ce que j'aime. Fait que c'est vraiment de travailler en combinaison ensemble pour faire qu'un plat, il soit au maximum.
Ouais. Ben, merci beaucoup, Arnaud Marchand. Donc, ce livre, Le Garde-Manger Boréal, 80 recettes pour le découvrir et le cuisiner, donc Le Garde-Manger Boréal. Alors, j'ai noté, donc, l'huile de pépin de canneberge, du poivre...
des dunes.
Poivre des dunes. Ah, ben, ça, c'était rendu sur une autre feuille. Le poivre des dunes et la vinaigrerie du capitaine à l'île d'Orléans pour trouver du vinaigre de cassis pour utiliser de toutes sortes de façons.
Oui.
On peut s'en mettre derrière les oreilles aussi.
Oui, c'est si bon pour la santé.
Quand il ne reste plus de Chanel numéro 5, tu te mets ça derrière les oreilles tellement ça sent bon. Merci beaucoup, Arnaud.
Merci beaucoup, Sophie. Plaisir. Merci, Catherine.
Puis, je comprends très bien pourquoi tout le monde est venu vous rencontrer au Salon du Livre pour partager cette passion-là que vous avez vraiment dans les yeux. Là. Hein, quand il parle de cuisine, lui, les yeux s'allument.
Complètement. Mais il fait faim, hein?
Il fait faim.
Quand on l'écoute parler, peu importe l'heure de la journée, c'est comme Obélix, il serait midi 12, puis il fait faim quand on l'écoute.
C'est comme Obélix.
Obélix, quand il est midi 12, il peut sortir dans les 12 travaux d'Astérix, t'as pas vu ça?
Oui, ben
quand
oui, mais sort, je me rappelle
pas. Il
sort
de l'épreuve là où il a mangé, il a tout mangé ce qu'il y avait dans le restaurant. Et là, son ventre, il gargouille, il dit, mais tu peux pas avoir faim. Il dit, mais oui, il est midi 12. Il a toujours faim quand il est midi 12.
Je me rappelais pas. Il est 10h31 à Boulevard Saint-Denis. Sophie Durocher.